Chapitre 15. Minette et Robert Butterworth avaient reçu pour mission de se présenter à l'improviste chez tous leurs élèves, à l'heure où ces derniers étaient en classe. Aux parents des plus studieux, Min et Bob expliqueraient qu'ils réalisaient une évaluation au nom d'un riche philanthrope offrant des bourses d'études aux plus méritants. Aux familles des collégiens les moins prometteurs, ils proposeraient un placement au sein d'un programme destiné aux élèves en difficulté. Ces visites leur donneraient l'occasion de noter tout détail anormal, à partir d'une liste d'indices qui leur avaient été fournis et qu'ils connaissaient par cœur. Curieusement, Min n'avait pas le souvenir de l'avoir mémorisé. Au cas où personne ne serait présent, ce qui risquait de se produire fréquemment puisque le père et la mère travaillaient dans un grand nombre de familles, on leur avait recommandé de forcer la porte à l'aide du pistolet crocheteur de police qu'on leur avait confié et de procéder à une fouille en règle des lieux. Deux bergers allemands avaient disparu en même temps que le petit garçon. Minette peinait à comprendre pourquoi les ravisseurs s'étaient encombrés de chiens et comment ceux-ci avaient accepté de se laisser prendre. Mais elle n'était pas là pour se poser des questions. Le mieux était encore d'avancer à partir des éléments dont elle disposait. De se rendre utile, en obéissant aux ordres. Ces chiens ne présentaient aucun danger. Bob et elle n'avaient pas à craindre d'être mordus, et s'ils voyaient deux bergers allemands répondant au nom de Duke et de Queenie, le petit garçon ne serait pas loin. Si jamais les ravisseurs avaient jugé les chiens trop encombrants au point de les tuer, il était important de fouiller chaque jardin et de voir si un coin de terre n'avait pas été remué récemment. Au début, Minette se sentait mal à l'aise de pénétrer chez des inconnus en leur absence et de fouiller leurs affaires. Mais dès la cinquième maison, elle s'était habituée au point de conduire ses investigations sans se poser de questions. Après tout, Bob et elle agissaient à la demande des autorités en qualité d'auxiliaires de police, pour le bien commun. Ce n'était d'ailleurs pas dangereux. Elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Vraiment aucune. Surtout, elle était ravie de se rendre utile. La cinquième maison était celle de Walter et Louise Attlee, les parents d'un élève de Minette prénommé Colter. Celui-ci était un gentil garçon, doublé d'un bon élément. Minette voyait mal ses parents être impliqués dans un enlèvement, mais la vie d'un petit garçon était en jeu. Ainsi que le leur avait expliqué ce gentil policier afro-américain, l'agent Kingman, il était difficile de se fier à quiconque de nos jours. Pas question de mettre en danger un enfant, au prétexte que des gens tels que Walter et Louise Attlee donnaient l'impression d'être honnêtes. Minette était occupée à fouiller les papiers de Walter Attlee dans son bureau lorsque se produisit un curieux phénomène. Un murmure se fit entendre, une voix masculine, qui prononça un chapelet interminable de gros mots et d'obscénités, toutes plus dégoûtantes les unes que les autres. Jamais Minette n'avait rien entendu d'aussi grossier. Il ne pouvait s'agir que d'un fou. Curieusement, le murmure semblait tout proche, alors qu'elle était seule dans le bureau. Les injures avaient cessé depuis une trentaine de secondes, lorsque Bob rejoignit sa femme. « Min, tu as entendu ça ?»«
Oui, il y a quelqu'un dans la maison. »«
Non, nous sommes seuls. » La voix recommença plus fort cette fois, et Minette s'aperçut qu'elle résonnait dans sa tête.
« La chambre des murmures, » balbutia-t-elle.
Elle n'avait jamais entendu cette expression de sa vie, ce qui ne l'empêchait pas de l'employer en sachant parfaitement à quoi elle correspondait. La chambre des murmures permettait à tous les individus utiles de communiquer entre eux. Chaque fois que l'un ou l'autre disposait d'une information importante, il lui suffisait de la partager par le biais de la chambre des murmures, efficace dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Cette capacité de coordination était un gage d'efficacité en cette époque où la planète ne tournait plus rond. Grâce à la chambre des murmures, chacun pouvait se rendre plus utile encore. Il était déconcertant que cette nouvelle fonctionnalité, ce Twitter interne, soit aussi mal utilisée par cet homme qui ventilait sa frustration en proférant des injures. L'intéressé n'était pas dans son état normal. À sa colère se mêlaient une violence et des désirs inassouvis qui choquaient profondément Minette. Ses divagations se poursuivaient de façon ininterrompue en formant une litanie de plaints et de déliés à la façon d'un chant grégorien que Minette était dans l'incapacité d'étouffer dans sa tête. Très secouée, elle se laissa tomber sur le fauteuil de bureau dans l'espoir que les injures se tarissent, les deux mains agrippées au rebord de la table, comme un naufragé se raccrochant à une épave dans l'espoir de survivre à la tempête. Le torrent d'insultes et d'obscénités, loin de se calmer, traduisait des envies crues qui déstabilisaient Minette. Aux gros mots s'ajoutèrent bientôt des cris et des hurlements effrayants, dignes d'un coyote en chasse. L'émetteur ne se contentait plus de proférer des injures, il revendiquait son indépendance, célébrait le plaisir du viol, la joie du meurtre et la destruction de l'autre. À mesure que cette cataracte d'émotions perverses prenait possession de son cerveau, Minette sentit se dissoudre son âme. Figé sur le seuil de la pièce, Bob était tombé à genoux avant de se recroqueviller en position fétale. Minette finit par perdre toute notion de temps. Elle n'aurait pas su dire si cette invasion de son esprit avait duré quelques minutes ou plusieurs heures, mais l'érosion de son être se poursuivait implacablement, son malaise initial cédant désormais la place à une forme agréable d'anticipation. Minette, soudain libérée de sa peur, vit son Bobby déployer lentement ses jambes et se redresser, une lueur sauvage dans les yeux.